Dear Valley People, bonjour sur Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer le monde du handicap. Dans nos deux premières émissions, on a exploré la définition du mot handicap, ce qui se cache derrière les racines. Dans notre deuxième émission, nous avons exploré les termes utilisé pour les personnes en situation de handicap, invalide, en situation de handicap, handicapé, y a-t-il vraiment un bon mot? D'ailleurs, récemment, on m'a rappelé un terme que j'avais pas entendu depuis longtemps, le terme de cotorep. Cotorep, terme très ancien et pas vraiment très flatteur. Je voulais chercher, chère auditrice, ce que ça veut dire réellement. Aujourd'hui, nous allons explorer la première catégorie du handicap. Et non, ce n'est pas le handicap moteur, comme on voit à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. On en a parlé en fin d'émission la dernière fois. C'est le handicap invisible, donc qui ne se voit pas. Et pourtant, qui est 80% de la population des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, pour explorer cette première catégorie, j'ai deux invités avec moi. D'abord, Estelle, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Estelle ?
Stressée, mais ça va.
Ok. Et j'ai avec moi aussi Marianne.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Chaud ?
Très chaud. Okay. Affreusement chaud.
Okay. Oui, c'est vrai qu'à Montpellier, ici, l'été a commencé. Ça y est, l'été a commencé. Nous cramons littéralement sous le soleil, tel des lézards.
Bon, les vrais Montpelliérains n'ont pas si chaud que ça. Ça va.
Ah.
Ouais, va. Et ben on n'est pas tous des vrais Montpelliérains.
Ben voilà. Voilà. Et ben rentrez chez vous, voilà.
mais non, chers auditeurs, reste avec nous. Donc, pour explorer la question du handicap invisible, Estelle, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous ce qu'est le handicap invisible ? Est-ce que vous le côtoyez tous les jours ?
Le handicap invisible, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un handicap qu'on ne prend pas au sérieux et qu'on a l'impression que les personnes refusent de voir et de comprendre. Et c'est vrai que quand on en parle souvent, c'est « non mais c'est pas un vrai handicap » ou « non mais ça va, t'exagères ». Alors qu'en vérité, c'est quand même quelque chose de, bah, qui est là, même si on le voit pas. Enfin, c'est répétitif, mais c'est ça quoi.
Marianne, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Dans mon expérience, le handicap invisible, au-delà d'être un terme qui est on ne peut plus approprier pour la situation, c'est en fait une surprise constante chez les gens, souvent qui va de pair avec une espèce de pitié étrange où, devant leurs yeux, vous passez de personne à pas personne. À soit cette personne est en train de me mentir, essaye de s'attirer un privilège en prétendant un handicap, ou alors, oh, mon Dieu, je suis vraiment désolée, j'avais pas remarqué, oh là là, quelle horreur. Et à ce moment-là, on cesse d'être un humain au même niveau que le leur.
D'accord. Donc, le handicap invisible, pour moi, c'est un handicap généraux. Ça recoupe toutes les catégories de handicap. On peut avoir un handicap invisible qui est à la fois moteur ou sensoriel ou mental. Vous, est-ce que c'est votre cas aussi ? Est-ce que vous êtes... Quel type de handicap vous avez, en plus du fait qu'il soit invisible ?
Alors moi, du coup, j'ai un peu tous les types de handicap, on va dire. J'ai le handicap invisible, mental, avec du coup la dyslexie, la dysorthographie, qui est considérée comme un handicap, c'est vrai. Maintenant, c'est donc un enfant dyslexique, dysorthographique ou n'importe quel 10 est en situation de handicap. Il ne faut pas penser que c'est juste de la flemme, qu'il ne sait pas écrire et qu'il est juste bête. Non. Et puis surtout, il faut l'accepter. Voilà, c'est un truc à faire passer. J'ai aussi un handicap invisible physique, puisque j'ai été opérée du dos d'une scoliose en 2016.
Et donc forcément, je ne peux plus faire de sport. J'ai le dos qui ressemble à une planche à repasser. En gros, je ne peux pas faire de dos rond ou quoi que ce soit. Et le dernier handicap, le handicap le plus important, j'ai envie de dire, celui qui a toujours été présent, mais qu'on a détecté il n'y a pas très longtemps, c'est tout simplement un handicap donc, psychique. Et cet handicap-là, ça s'appelle le trouble de la personnalité borderline.
D'accord. Merci Estelle. Et vous, Marianne ?
Alors moi, j'ai un handicap physique qui, par traitement et temps passé, a ajouté à ça un handicap mental.
D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit, Marianne, que les gens ne savaient pas où se placer. Un peu de pitié, un coup, ils nous considèrent comme une personne. Puis ils savent, ils nous considèrent plus comme une personne. J'ai lu sur Internet qu'on tape handicap invisible, on tombe sur une image qui marque « Mon plus grand handicap, c'est que le mien ne se voit pas ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Dans quel cas vous avez vécu ce genre de problématique où finalement le fait que les gens ne savent pas a été pire, entre guillemets, que les symptômes causés par vos pathologies ?
Alors, je pense que dans la plupart des cas, je ne peux pas dire que mon handicap, que le fait que les gens ne voient pas mon handicap soit plus fort que mon handicap, parce que j'ai une douleur chronique et que les gens le voient ou pas n'a aucune influence sur la masse de douleur que je ressens quotidiennement. Par contre, c'est vrai que le fait que mon handicap ne se voit pas fait que quand j'ai à demander la place de quelqu'un dans le bus ou à faire valoir mon droit de m'asseoir, en fait, et que les gens ont cette première réaction de « mais elle est jeune, elle a l'air en bonne santé, pourquoi je lui donnerais ma place ?» Et ben, même si ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un me la refuse, c'est quand même un temps d'arrêt où je suis debout, où j'ai mal, parce que les gens ne considèrent pas le fait que mon handicap puisse être quelque chose de vrai. Mais dans mon cas précis, parce que je ne veux pas parler pour tout le monde, ce n'est pas vrai que le fait que les gens ne voient pas mon handicap soit plus impactant sur ma vie que mon handicap en lui-même.
D'accord, merci. Estelle ?
Eh ben, alors moi, c'est vrai que pour mon handicap du coup physique, c'est à peu près pareil. J'ai des douleurs aussi si je suis en station debout, assise ou allongée trop longtemps. Donc c'est vrai que des fois, je me raidis et je dis aux gens j'ai mal et ils veulent pas me croire forcément. Mais c'est vrai que pour le handicap psychique, donc celui qui me caractérise au final, parce que c'est celui qui fait que j'ai cette personnalité, que j'ai cette hypersensibilité et enfin que j'ai mon caractère. Et ben c'est vrai que, je sais pas si c'est si handicapant que ça que les gens le voient pas, parce que l'avantage de quand ils le voient pas, au moins ils ne me prennent pas pour une tarée en fait. C'est très bête, mais on parle tout de suite d'un handicap psychique et pour eux on est des tueurs en série, on va leur faire du mal ou on veut se suicider. Non les gars, faut comprendre que c'est pas ça et que voilà. Donc non, je ne suis pas tarée.
On l'a jamais cru que vous étiez tarée, Stelle. Mais en effet, il y a malheureusement beaucoup trop d'étiquettes très exagérées envers le handicap psychique. Et d'ailleurs, Estelle, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce que la personnalité borderline ? Puisque je pense que parmi nos auditoristes, il n'y a pas beaucoup qui savent. Moi, le premier d'ailleurs, exactement, je ne serais pas capable de dire exactement ce que c'est. Allez-y.
Alors déjà, il faut dire que le trouble de la personnalité borderline, donc c'est quelque chose de très courant au final, mais qu'on ne parle pas beaucoup, qu'on a découvert, enfin qu'on reconnaît il n'y a pas très longtemps. Ça touche plus de femmes que d'hommes, encore une injustice. Voilà, c'est quelque chose qui a toujours été présent, hein, ça existe depuis des années, mais il n'y a que maintenant où on le déclare comme un handicap. Donc, trouble de la personnalité borderline ou état limite. Donc, dans les deux cas, on a l'impression que ça fait un peu personne limitée ou personne qui a fait un burn-out. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Souvent, ça se déclenche vers l'adolescence. Et donc, c'est des, tout simplement, ça fait un peu comme des crises donc de dépression, une hypersensibilité. On ne gère absolument pas ses émotions. Et surtout, il y a souvent, et c'est ce qui caractérise le trouble borderline, c'est la sensation de vide qui revient. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier en se disant « Ah ben moi, je suis borderline parce que je suis hypersensible ou je passe d'une émotion à une autre très rapidement. » Mais il faut vraiment comprendre que borderline, c'est vivre ses émotions à 3000%, donc les bonnes et les mauvaises. Mais il y a aussi cette sensation de vide. Et ce vide, c'est pas... Enfin, c'est vraiment, oui, cette solitude, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir.
On la vit à 3000% aussi.
Bien sûr.
Marianne, une réaction?
Je n'y connais absolument rien, donc je m'excuse si je dis quelque chose d'insensible, mais est-ce qu'il y a des grosses différences ou même d'ailleurs aucun rapport entre le trouble borderline et la bipolarité?
Alors, c'est des maladies communes, en fait, et cousines d'ailleurs. Mais alors, en fait, la bipolarité, c'est cyclique. Donc, on va dire que pendant 3 mois, tout va bien et après, ça va retomber, refaire dépression. On va dire que voilà, la bipolarité, c'est les phases, donc c'est maniaco-dépressif. Il y a des phases donc dépressives et il y a des phases maniaques, donc souvent excitation et colère, joie, enfin à l'extrême et bien sûr dépression, crise suicidaire, etc. Du coup, borderline, c'est vraiment pas cyclique, enfin c'est tous les jours. Et c'est oui, enfin voilà, on va passer de la joie à la tristesse, et puis tout d'un coup on va se sentir vide, et puis hop, rejoie, recolère, enfin vraiment c'est
D'accord.
voilà.
Ok, merci.
Merci Estelle. Et Marianne, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre pathologie, les conséquences que ça a? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de conséquences, autant en termes médical, de prise de médicaments, de plein de choses en fait. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire tout ça?
Donc, sans rentrer dans les détails de comment on en est arrivé là, actuellement, j'ai une douleur chronique. 24 heures sur 24, tous les jours de ma vie, je suis à un niveau de douleur qui est aux alentours de 8 sur 10, qui est donc extrêmement invalidant, qui m'empêche de bouger, qui m'empêche de vivre. Quand j'ai des crises de douleur et que je m'approche de 9 ou 10, je suis incapable de parler. Si les gens me parlent, je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est vraiment, c'est tétanisant en fait comme sensation. Et donc cette douleur chronique vient de 8 ans d'accidents et de procédures et d'échecs entre le monde médical et la façon dont mon corps fonctionne, qui ont mené en fait à... le nerf dans ma jambe droite, le grand nerf qui longe le côté externe, a été étouffé par des œdèmes qui se sont formés dans ma cheville. Donc mon nerf est mort en fait, il est atrophié, il ne fonctionne plus. Et donc ça a comme conséquence sur ma jambe que par exemple mes orteils ne fonctionnent plus, donc je ne les sens pas, je ne peux pas les bouger. La partie avant de mon pied est pratiquement morte. J'ai pas de sensation au toucher, pas de sensation à l'écrasement, enfin ce genre de choses. J'ai très mal au genou, puisque le nerf y passe. Donc j'ai très mal quand je marche. La station debout est pénible, forcément. Dormir, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de positions où je peux mettre ma jambe sans qu'elle se torde dans tous les sens. Et je dors très mal parce que à chaque fois que je me tourne, en fait, ça fait bouger ma jambe. Et si la position est mauvaise, la douleur me réveille instantanément. Donc j'ai des nuits très courtes et qui sont très saccadé parce que je me réveille beaucoup. Et donc pour la douleur, en fait, on m'a prescrit une panoplie d'antidouleurs qui passaient des infiltrations de cortisone quand j'avais 13 ou 14 ans à des médicaments avec de l'opium et de la caféine dedans. J'ai pris de la codéine, des dérivés de morphine, enfin toute une panoplie d'antidouleurs qui soit fonctionnaient très bien mais me rendaient extrêmement malade, donc ne me permettaient pas une prise quotidienne, soit n'étaient tout simplement pas efficace sur mon corps, jusqu'à il y a à peu près un an où donc mon médecin m'a prescrit de la morphine que je prends tous les jours à une dose assez importante. Et grâce à la morphine, mon niveau de douleur a baissé aux alentours de 5 ou 6, ce qui me permet de sortir de mon lit, d'aller en cours, de partir avec mes amis. Mais le problème, c'est que je dois en prendre constamment. Du coup, à chaque fois, si je rate une prise ou si je rate l'heure d'une prise ne serait-ce que d'une heure, en fait, la douleur revient comme un coup de poing. Et donc, je dois absolument m'asseoir, je dois rentrer chez moi, je peux plus rien faire. Donc, ça handicape mes interactions sociales. Tous mes cours, je dois les calculer pour que je puisse rentrer chez moi à n'importe quel moment sans que ça ait un impact sur ma scolarité. Et toute cette année, donc, j'ai eu un... Alors, avant, on appelait ça un PAI, mais ça doit avoir un nouveau nom maintenant. Et donc, qui disait que j'avais le droit de sortir de classe à n'importe quel moment, parce que la morphine, en fait, sur moi, a un effet endormissant, en fait. Et du coup, j'avais tendance à m'endormir en classe assise, vraiment. J'étais même pas genre allongée sur mon bureau, juste j'étais assise et je m'endormais. Du coup, pouvoir sortir de classe, faire un tour pour me réveiller, j'avais le droit de... J'avais eu un tiers-temps sur tous mes examens, parce que comme j'arrivais pas à me concentrer, j'en avais besoin pour finir. Donc ça a eu un gros impact sur ma scolarité, un gros impact sur mon cercle social, parce qu'il me fallait des amis qui acceptent le fait qu'il faut toujours qu'on ait un endroit où s'asseoir si on va au bar, que je vais jamais passer la nuit avec eux dehors si je peux pas m'asseoir, qu'ils vont devoir venir chez moi plus que je vais chez eux. Gros impact sur ma famille, donc forcément j'ai eu une déclaration de handicap et ça m'a permis d'avoir le droit de m'asseoir dans les transports en commun. Beaucoup d'aide qui a eu un vrai impact sur ma vie en plus des antidouleurs.
Un impact positif.
Complètement positif, oui, bien sûr.
Merci Marianne et merci Estelle pour ces partages. Nous, on a entendu beaucoup de choses, la famille, les interactions sociales, la scolarité, les impacts que le handicap peut avoir dessus. On a entendu aussi de la part d'Esther une sensation de vide. Et mais le vide, je pense que chaque personne, si on est réellement honnête, connaît un peu ça aussi. On y reviendra tout à l'heure. Chers auditeurs, j'aimerais vous dire d'abord que ces partages, vous les entendez, vous avez envie de dire les pauvres, vous avez envie d'être triste, vous avez envie de plein de choses de ce type-là. Mais j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire faites pas ça. J'ai envie de vous dire essayez de vous mettre à la place d'eux. Et en fait, finalement, même si toutes ces choses ont l'air négatives, ben en fait, c'est un cadre. Et c'est un cadre de vie pour réussir à faire des choses, à vivre parmi tout le monde. Et j'aimerais plutôt que vous vous accrochiez à cette idée, cher auditeur, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas avoir par tout ce mélodrame qu'on a autour du handicap. Nous reviendrons après une pause musicale où nous serons avec Gary Jules sur le titre Mad World. À tout à l'heure.
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Child should sit and listen, sit and listen.
picture, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. People run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world.
Et nous voici de retour sur Dear Valet People, toujours sur Radio FM+, en compagnie de Estelle et de Marianne, pour discuter du handicap invisible. Alors, en première partie, nous avons pu développer sur leurs différentes pathologies, leur expérience, la définition, en quelque part, du handicap invisible, mis à part le fait qu'il ne se voit pas, mais ça a plus de conséquences qu'il n'y paraît. Et justement, Estelle, on commençait à parler des interactions avec autrui sur le terme borderline. Qu'est-ce que vous avez à en dire?
Alors, sur le terme borderline, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de connaître ce terme parce que c'est un petit peu une phrase à la mode. Ah, je suis trop borderline. Parce que borderline, c'est aussi dans la culture de maintenant, c'est vraiment je change d'avis facilement, je sais pas vraiment ce que je veux. Enfin voilà. Donc les personnes ont vraiment l'impression de savoir ce que c'est, mais c'est vraiment très très différent hein, d'être borderline, on va dire. Pour le style, changer vite d'avis, c'est vraiment différent que d'avoir une personnalité borderline. Donc c'est vrai que les personnes, souvent, moi ça me fait plus rire, mais je sais qu'il y a une grande communauté des personnes borderline qui n'aiment pas du tout ça. Quand des personnes, par exemple sur des pages Facebook, disent « Ah, je suis trop borderline, j'ai encore changé d'avis » ou je sais pas quoi, alors que ces personnes ne le sont pas. Et bon, moi, ça me fait plus rire qu'autre chose parce que bah, ils savent pas, c'est pas leur faute. On peut pas, si on leur apprend pas, ils peuvent pas savoir. Donc voilà, donc moi, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est.
D'accord. Donc, on présume de savoir ce que c'est, comme de votre côté, Marianne, on présume que vous êtes capable de rester debout dans le bus. On présume que vous pouvez faire telle chose ou telle chose. Finalement, moi, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose dans mon cas, parce que je vous rappelle, cher auditoriste, que moi aussi, je suis en situation de handicap moteur, où en fauteuil roulant, on nous présume toujours qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Alors, comme le disait Estelle, demandez, en fait, soyez curieux, vous ne savez pas, mais nous, on sait. Poser des questions, faut pas faire genre, vous savez. On sait qu'on est dans une société aujourd'hui où les adultes savent. Si les adultes ne savaient pas, ça serait bien triste. Sauf que la vérité, les adultes, ils savent pas des fois, eux non plus. Ils apprennent tous les jours. Et nous aussi, on apprend tous les jours. En effet, pour revenir à la situation que vous décrivez dans le bus, c'est l'une des choses qui me frappe moi tout le temps, qui me revient à l'esprit quand on parle de handicap invisible, c'est cette situation dans une file d'attente au supermarché ou autre, et qu'on demande de passer devant et qu'on est vu regarder avec beaucoup de colère, alors que fauteuil roulant, on n'en a pas forcément besoin. Mais on nous laisse passer automatiquement, alors que nous, on est assis, on n'en a pas réellement besoin. Pourquoi ce décalage? Pourquoi cette inversion, d'après vous?
Je pense que ça vient beaucoup des préjugés des gens, de ce qu'ils supposent, parce que les gens aiment bien supposer. Mais oui, ça m'arrive tout le temps de demander la place de quelqu'un, de passer la file dans le supermarché parce que je peux pas rester debout et d'avoir des gens qui chuchotent, des gens qui me regardent en disant mais t'es jeune, mais mais t'as l'air en bonne santé, ou alors la meilleure, mais t'es trop jolie pour être handicapée. Et alors à chaque fois,
sérieusement,
moi... Ah vraiment. Et à chaque fois, moi, ça me... Je sais même pas comment réagir. Je me retrouve plantée là, avec mon sac de course, à regarder une vieille dame qui vient de me dire que je suis trop jolie pour être handicapée. Mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde? qu'est-ce que tu veux que je te dise quand toi, tu pars du principe que il y a un handicap. Genre, il y a un handicapé et il a une tête et il a un style et il a une façon de s'habiller. Et si tu ressembles pas à ça, bah, t'es pas handicapé parce que, oh là là, regarde-toi. Et ça me fait rêver parce qu'il y a des jours où j'ai besoin de béquilles, où j'ai besoin de fauteuil roulant pour me déplacer. Et je suis dans mon fauteuil en train de monter une rampe et j'arrive au cinéma. Je me lève de mon fauteuil pour passer juste la petite marche et genre pousser mon fauteuil pour continuer. Et là, c'est comme si Jésus venait d'arriver dans la pièce parce que, oh mon Dieu, elle s'est levée de son fauteuil, elle peut marcher. Alors, soit on a les hallucinés qui se disent « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Ou alors on a les sceptiques qui disent « Ah, encore quelqu'un qui triche et qui veut avoir des privilèges qu'il ne mérite pas. » D'ailleurs, au passage, c'est pas des privilèges, on en a besoin, merci. Donc, ça me... Je sais même pas quoi y répondre à ces choses-là, à chaque fois.
Des personnes qui trichent, des personnes qui feraient semblant d'être handicapées. Estelle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aurait des gens qui feraient semblant d'être handicapés?
Alors, moi, j'avoue que je vis un petit peu la même situation dans les files d'attente. Donc, des fois, bon, parce que j'ai des douleurs chroniques à cause de mon dos. Mais la plupart du temps, c'est parce que bon, il y a du monde. Le monde, ça peut être stressant si j'ai passé une mauvaise journée, si je suis juste dans la période de stress qui va pas, que tout simplement il s'est passé un événement. Enfin, le problème, voilà, c'est que j'ai un potentiel de stress très très fort. Donc moi, si je peux être dans une file d'attente et tout d'un coup faire une crise d'angoisse, donc forcément j'ai une carte aussi donc de priorité. Pour comprendre, à faire comprendre aux gens que voilà, je dois passer. D'ailleurs, sur cette carte, il y a marqué que je dois être accompagnée. C'est assez fort, je sais, mais c'est parce que j'ai vraiment cette nécessité. Si je me mets à faire une crise d'angoisse en plein milieu de la rue et que je suis toute seule, il faut que j'ai quelqu'un, il faut que je puisse m'appuyer sur quelqu'un. C'est vrai que souvent, si je me mets, enfin, il faut limite que je me mette à boiter pour que les gens ils me laissent passer si je fais une crise d'angoisse. Donc, je suis obligée en fait de faire semblant d'avoir un handicap invisible mais physique pour que mon handicap, entre guillemets, mon vrai handicap le plus lourd puisse, soit excusable et puisse fonctionner. Du coup, on est obligé de faire semblant et même des fois, on est obligé de le cacher. Ouais, on le cache.
Je vois très bien la problématique. On est obligé de faire des choses, on est obligé de se mettre dans d'autres handicaps qui ne sont pas forcément les nôtres. Tout ça parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant. Alors qu'en fauteuil roulant, c'est l'extrême inverse. Les gens font trop, beaucoup trop. On ne nous laisse pas agir, on ne nous laisse pas faire. Alors que nos capacités restantes sont les choses les plus chères. Donc je vous le dis à vous, chers auditeurs, essayez de réfléchir à deux fois avant de forcément aider quelqu'un en fauteuil. Peut-être qu'il peut, peut-être qu'il ne peut pas. Demandez-lui, c'est la meilleure personne pour savoir. Et on revient à ces problématiques du handicap visible ou invisible. Dès qu'il est visible, dès que c'est un fauteuil, ça devient plus normal de l'aider quand il fait une crise, quand il a un problème. Alors qu'une personne qui fait une crise d'angoisse au milieu de tout le monde, personne ne fait rien. Bienvenue dans la société actuelle. Je trouve ça assez triste de devoir exagérer, de devoir toujours essayer de réfléchir à comment je vais réussir à être bien perçu pour être aidé finalement. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de problématique dans le fait d'être debout ? J'ai lu récemment dans un livre que malheureusement je ne suis jamais rappelé le titre, excusez-moi, que dans la société d'aujourd'hui, notamment dans les transports en commun, les gens sont debout. les gens sont tout le temps debout et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent en fait et qu'il y a une forme de ben, on est tous là, on est ensemble, il y a sa forme d'ensemble. Et au milieu de ces gens debout, il y a une personne en fauteuil et ça déstabilise tout, ça change tout. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est le fait de debout qui offre une certaine familiarité entre les êtres humains ou pas?
Moi, je pense qu'en fait, il y a une question d'esthétique et genre de glamour. Les gens, ils ont une vision du handicap. Ils ont envie que toutes les personnes handicapées ressemblent à cette vision qui est propre, qui est alors que ce qu'ils voient pas, c'est quand moi je suis chez moi et que je me traîne jusqu'à mes béquilles parce que sinon je peux pas aller aux toilettes, enfin ce genre de choses. Et du coup, cette vision de la personne debout qui est pour eux l'épitome de la personne qui est en bonne santé, parce qu'à partir du moment où on est debout, on est ni personne âgée, ni enfant, ni personne en situation de handicap. On est l'épitome de la personne capable. Et ben à partir du moment où on n'adhère pas à cette vision-là, on rentre dans la catégorie du handicap qui leur plaît, où ils pensent savoir quoi faire, comment aider, comment se comporter, ce qui est vraiment pas forcément le cas. Et donc forcément, une personne en situation de handicap qui d'un coup peut se lever, qui d'un coup endosse le rôle d'une personne capable, d'une personne valide, d'une personne qui ne rentre pas dans leur stéréotype, bah, ça les déstabilise. Ils se sentent trahis ou mentis ou comme s'ils avaient la main mise en fait sur quelque chose qui est privé et qui nous regarde, comme si en fait le fait qu'on se trimballe pas avec un panneau qui dit bah, c'est possible que je me lève bientôt, et ben on vient de leur mentir en fait, et du coup comme on les a trahis, on fait pas partie de leur groupe, et donc à partir de ce moment là et ben voilà, on n'est plus parmi eux.
On a besoin tout le temps de prouver nos capacités ou nos incapacités auprès de tout le monde. Estelle, qu'avez-vous à dire sur cette notion de santé? La santé, elle est sacrée aujourd'hui, elle est la personne en bonne santé. Est-ce qu'elle existe déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 100% en bonne santé aujourd'hui? Malheureusement, je ne suis pas très sûr. Et pourquoi finalement cette réaction qui est à l'opposé envers la personne qui n'est pas en bonne santé, qu'on est presque à faire culpabiliser qu'elle ne soit pas en bonne santé?
Alors oui, pour moi non, il n'y a pas de personne en bonne santé actuellement, hein, qu'on le veuille ou non, on a toujours des petits problèmes. Voilà, mais c'est vrai que c'est selon le handicap ou selon la pathologie qu'on a, je trouve que les personnes, oui, sont plus ou moins compréhensives. Par exemple, on prend le cas tout bête. On prend une personne donc anorexique et on prend une personne obèse. Dans le cas de la personne anorexique, on va en avoir peur. On va dire, oh la pauvre, elle va nous claquer sous les doigts. On va la casser ou quoi que ce soit. Et on va la faire culpabiliser en disant, bah, si tu veux t'en sortir, il faut juste manger. Non, mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin, il faut être logique au bout d'un moment. Si c'était ça la solution, il n'y aurait plus d'anorexique dans le monde. Alors qu'à contrario, une personne obèse, eh ben, on va plus s'en moquer et elle va plus nous dégoûter qu'autre chose. On va tout simplement lui dire bah, « c'est ta faute, t'as qu'à faire du sport ». Sauf qu'il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, soit parce que elles peuvent pas parce qu'elles ont un handicap, soit tout simplement parce que bah, c'est leur morphologie. Donc voilà, à chaque fois, selon la pathologie, on est plus ou moins considéré et surtout on est plus ou moins à plaindre. Donc moi, là, ce que je vois, c'est que voilà, une personne en fauteuil, on va la plaindre. Une personne en béquille, on va un peu la plaindre, mais bon, elle se tient debout. Bon, elle a une troisième jambe, mais quand même. Une personne, bah, par exemple, comme Marianne, qui a besoin d'aménagement de temps en temps, on va la plaindre, mais que quand on voit qu'elle a mal. Et après, une personne bah, comme moi qui n'a pas en soi de douleur physique, mais qui a besoin pourtant d'aménagement, on va pas du tout la plaindre et on va même dire va dans un institut, va à la Colombière à Montpellier et tu verras, tu t'en sortiras, quoi. Mais c'est pas du tout ça.
Merci à celle. Marianne, vous pouvez dire quelque chose?
Ouais, justement, par rapport à la santé dont on vient de parler, ça me rappelle quelqu'un que je ne vais pas nommer, qui, un jour, en parlant de handicap, avant que j'aie ma reconnaissance de handicap, mais j'avais déjà mes douleurs et tout ça, m'a dit, avec le plus grand sérieux du monde, que en fait, la nature se débarrassait des éléments défectueux de l'espèce, et que la seule raison pour laquelle il y avait encore des personnes en situation de handicap moteur ou mentaux dans notre société, c'est parce qu'on est à un niveau d'évolution où on a réussi à garder en vie des gens qui seraient morts à la naissance ou juste après leur accident. Et donc que la seule raison pour laquelle on existe, c'est parce que la société nous permet de profiter d'elle, et donc de pomper les ressources des gens valides parce que du coup, nous, on a besoin de deux fois plus de ressources, avec des immenses guillemets, évidemment, parce que c'est pas forcément le cas. Donc, on a besoin de beaucoup plus de ressources que d'autres. Donc, on pompe les ressources des valides. Et si on était dans le monde sauvage qui fait rêver tant de gens de l'extrême droite, ce monde parfait où la nature est la comparaison idéale, les handicapés, les personnes en situation de handicap, les personnes avec des pathologies mortelles ou invalidantes n'existeraient pas. Les personnes sourdes, malentendantes, aveugles ou malvoyantes n'auraient jamais survécu. Et ce discours, pour moi, il est tellement écrasant que... quand quelqu'un me sort ce genre d'argument, même si je sais comment les démonter, même si je suis capable de lui dire que c'est n'importe quoi, ça impacte tellement mon identité et la façon dont je vis ma vie que je ne peux pas répondre automatiquement. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'écraser ce que je suis et de me dire « Sois reconnaissante qu'on soit au 21e siècle, parce que sinon, tu serais morte. » Et alors ça... Ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas répondre.
Eh bien, merci la société, merci pour l'argent et pour tout le reste. Hein, des bisous. Oui, non. Ce genre de discours darwinien, non merci, hein, la loi du plus fort, tout ça, va falloir passer à autre chose, les amis. On n'est plus à la compétition, on est à l'époque de la coopération. Nous vivons tous sur une même planète qui est en train de mourir. Je pense qu'il va falloir... se main dans la main, faire des choses. Merci pour vos interventions, Marianne et Estelle. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission de Dear Valid People. J'aimerais juste en profiter pour dire que la société APF France Handicap a produit une exposition sur le handicap invisible. Je vous invite à la découvrir, à aller voir, où des gens tentent de rendre visible leur handicap, et c'est quelque chose de touchant qui est plaisant. J'aimerais aussi rappeler que notre pause musicale, c'était Mad World de Gary Jules, où en effet, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un Mad World. Mais bon, on est là, on est encore debout, enfin pour certains. Et pour toutes vos réactions, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur la page de Radio FM+, et de mettre des commentaires si vous avez des questions. Je vous lirai et je prendrai le temps de vous répondre. Merci Estelle.
Ben merci.
Merci Marianne.
Merci beaucoup de l'invitation.
C'était Dear Valid People sur Radio FM+. Bonne journée à tous.